Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Money Time, l'émission sportive de Prune, saison 4, épisode 8. Au programme ce soir, on parlera de foot avec la Ligue 1 et le début de la Ligue des Champions, les résultats des clubs nantais avec score en stock, la F1 avec la 92e victoire d'Hamilton, du MotoGP, le Giro, la Vuelta dans Chasse-Patate et plein d'autres sports. Pour en parler avec nous, plus expérimenté en sport auto qu'Henri Pescarolo, c'est Fabrice.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Plus bondissant que Matteo Faduil, c'est Lucien.
Bonsoir à tous et à toutes.
Plus perfectionniste que Rafa Nadal, c'est Charles.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et plus combattante que Mégane Rapinoe, c'est Maëlan.
Salut les Nantais et Nantaises.
Allez, on envoie avec le PFC.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Alors, il y avait la journée de championnat avec, je l'annonce tout de suite, Lens-Nantes a été reporté, mais il y avait plein d'autres matchs.
Et oui, Lens-Nantes reporté pour des cas de Covid côté Lensois.
On ne sait même pas quand ça va être remis le match.
Pour l'instant, on n'a aucune date. Ouais.
Aucune date.
Ouais, bon, bah, hier, bah, c'était la 8e journée de Ligue 1. Et hier soir, bah, il y avait un gros match, le choc, Lyon-Monaco. Et Lyon s'en est très bien sorti avec une belle victoire, 4 buts à 1, une première mi-temps. La défense de Monaco est passée totalement à travers. Lyon a su en profiter en contre-attaque. Oui, parce que Monaco avait la possession de balle, hein, à plus de quasiment 80%.
Ouais, 72-28
à la mi-temps. Enfin,
ouais, ça reflétait pas tellement le score, hein, à la mi-temps. C'est vrai que non, ouais. La possession.
Comme quoi, pour le haut football, bah, des fois, c'est pas forcément intéressant d'avoir le ballon. Il vaut mieux marquer.
Monaco, c'est une seule victoire en 5 matchs. Quoi. C'est compliqué. Quoi.
C'est compliqué avec Kovac, hein, parce que Kovac était venu ici pour remplacer Roberto Moreno, qui lui faisait du jeu, mais alors qu'eux, ils voulaient plutôt un peu à l'allemand, c'est-à-dire au contre-attaque, niveau un peu comme Leipzig. Bah, finalement, ils ont la possession et ça marche pas du tout.
Il a des bons joueurs, hein, en plus. Hein, bah, oui. Volant de Fabregas, donc un peu vieillissant.
Ben Yedder.
Ben Yedder, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas en début de saison.
Avec, pour Lyon, bien sûr, l'attaquant Depay.
Memphis Depay, oui, Toko Ekambi, qui ont réalisé à eux deux un gros match, hein, franchement. Depay qui sort tous les buts de Lyon hier soir quasiment. Et d'ailleurs, il faut le noter, c'est quand même qu'il est quand même sur 73% des buts de Lyon. Ouais. Il est impliqué dans l'action quand même.
5 buts, 3 passes.
Depuis le début de la saison. Ouais. Donc c'est énorme pour l'élément important et tout de Lyon. Et Toko Ekambi qui a fait un très bon match, qui un nouveau doublé pour lui après le dernier contre Strasbourg. Donc c'était
Dijon.
Ouais, contre Dijon. Donc c'était important.
Oui, donc bonne performance, il remonte au classement.
Bah, il remonte tranquillement, oui.
Tout comme Marseille, qui a été gagné à Lorient,
et
sur une grosse boulette du gardien lorientais.
Une boulette du gardien, donc c'était important pour les Marseillais de se reprendre après la défaite face à l'Olympiakos en toute fin de match. Et bah, là, ils ont bien réagi, c'était important pour le championnat. Une victoire 1-0 face à Lorient, sur un corner,
sur un coup franc. Mais au deuxième poteau, dans le dos du gardien. On dit une boulette du gardien, oui. Je suis désolé.
Je suis d'accord.
Il aurait pu avoir un défenseur là-dessus.
Ouais, c'était compliqué.
Il pense qu'elle va sortir, la balle sort.
Il la met vraiment.
Il
pour
pense
lui,
qu'elle
elle
sort.
Je suis d'accord avec toi, Charles. Pour lui, elle sort la balle.
Je suis d'accord
mais
avec toi, Fabrice.
Un défenseur.
Mais il aurait dû être bloqué, Balerdi, par un défenseur lorientais. Mais le gardien, Paul Nardi. Elle passe au-dessus de la tête, il fait exprès de ne pas mettre, tu vois vraiment ses bras écartés.
Oui, parce qu'il ne pense pas qu'il peut la mettre.
Il sort, parce moi, que je pense. Il la laisse passer, en fait, et il voit après l'attaquant.
Il peut même la bloquer.
Hein. Il peut complètement la bloquer, sauf qu'en fait, il se dit, il y a personne, l'autre ne va pas la récupérer, ça va finir en 6 mètres tranquillement.
Il n'a pas l'air trop, le mec. Et là, elle passe, mais il trouve souris.
Il n'est pas comme Stroll. Côté l'OM, Benedetto, je le cherche encore. Depuis fantomatique.
Les questions, d'ailleurs, se posent sur le retour possible de Mitroglou à ce niveau-là.
Non.
Non, quand même.
On rigole. Pour faire visiter quoi
Benedetto est encore au-dessus.
Ah bah, mais il va falloir qu'il se réveille un petit peu, Benedetto.
Oui, et puis on attendra aussi le fameux Luis Enrique, la future pépite.
Faut qu'il s'acclimate.
Et Cuisance, par contre, t'es bon quoi.
Bah, c'est un bon joueur.
Et t'es bon.
Il vient du Bayern. Donc.
On va rester dans le secteur avec la victoire de nos voisins Angevin à Rennes. Très beau
le
match.
Le SCO qui bat les Rennais. C'est pas arrivé depuis 76
À Rennes.
Au stade de l'Euro de l'Orient, maintenant, voilà. Au stade de Roizen Park. Mais la route de l'Orient, c'est pareil. Ils restaient sur 3 nuls et 7 défaites là-bas. Et ils ont gagné.
C'est la première défaite de Rennes.
À noter quand même que c'est quand même le quatrième match de suite, toute compétition confondue, que Rennes ne gagne pas.
Ouais,
ils enchaînent, avec 3 matchs nuls, 1 Ligue des Champions, 2 en championnat, la CNFS. Attention à Rennes, hein. Ils ont bien commencé, il va pas falloir que ça se tasse, parce qu'ils vont enchaîner les matchs surtout maintenant.
Non, là on commence déjà à avoir la fatigue post-Ligue des Champions, ça va être compliqué les semaines à venir, s'enchaîne.
La galette saucisse commence à rester en travers de la gorge.
Oui, sur l'estomac surtout des Rennais, hein. Pourtant Rennes avait ouvert le score avec Unu, et puis c'est Boufal un heureux ancien, retour, pour le SCO. Et puis Fulgini,
oui.
Qui donne la victoire. Les deux buts angevins sont détournés quand même.
Oui.
Donc pour nos voisins.
Bah, c'est surtout que Rennes a dominé largement le match, mais malheureusement Angers était plus réaliste et ils se sont fait punir.
Oui, de toute façon, ça a été une journée particulière. Hein.
Oui.
C'était une journée quand tu vois Reims aller gagner 4-1 à Montpellier.
4-0. Après, circonstances, il y a les cartons.
Tu vois des choses, mais bizarre quoi. C'est vraiment
cette saison sera particulière.
Voilà, elle sera particulière. Et Strasbourg qui gagne à Brest. Bon, là, c'est
ça arrive aussi. 3-0 pour pareil, Strasbourg à Brest. Et puis, surtout, alors, il y avait un certain PSG Dijon avec.
J'ai vu le match. Tranquille. Dijon n'a pas, franchement, défensivement. Ils ont fait quelques trucs offensivement avec le petit joueur là, prêté par le PSG, Dina Mbimbe. Là.
Ouais.
Il a fait quelques actions intéressantes, mais après, défensivement, quand t'as les joueurs. Quand t'as Neymar et tout, offensivement, c'est plus facile de marquer. Bon, victoire logique 4-0.
C'est ce que j'allais dire. Surtout, on a doublé de Moïse Kean, doublé d'Mbappé.
Certains leur mettaient déjà en cause après deux matchs où s'il n'avait pas été très bon et tout. Là, il réagit bien, deux buts. C'est bon pour la confiance.
Moïse Kean ou Mbappé ?
Mbappé.
Attends, il faut lui laisser le temps d'arriver.
C'est pour ça.
C'est là où je veux en venir. C'est Dijon, voilà, on a eu le même coup avec Pau il y a 3-4 ans, un truc comme ça, où là, ils n'ont absolument aucune victoire au du match. Donc là, il y a quand même un niveau différent entre la D1 et la D2.
Ils n'ont que deux points.
Ligue 2, ils n'ont que 2 points.
Ils ont que 2 points, et sachant que sur.
Ils ont moins 14 au niveau goal à virage.
Ah non, mais...
C'est grave.
Dijon, c'est prêt.
Après, on va dire le championnat de France, il n'est pas performant, quoi. Quand on a des équipes comme ça, c'est pas possible, quoi.
Mais... D'accord, quand même.
Bah, après, il y a toujours des équipes comme ça.
Ça fait partie du jeu.
Si c'était spécial la saison dernière, la Ligue des Champions, avec le Final Eight et tout ça. Mais on a quand même eu deux représentants qui sont allés loin, du coup je pense que...
Une petite statistique d'ailleurs sur Dijon, sur les clubs qui au bout de 8 journées n'ont que 2 points en Ligue 1, il n'y en a que 8 sur 10 des équipes se sont fait reléguer à la fin de la saison. Donc attention pour Dijon.
Pour Dijon, c'est chaud déjà. Déjà c'est chaud pour eux. Mm.
Et puis il y avait un match qui nous intéressait pour les participants à la Ligue Europa, c'était Nice-Lille.
Exactement, Nice-Lille, qui sont les deux clubs de Ligue Europa, qui ont finalement partagé les points, un partout. Nice, Lille dominée quand même en première période.
On les a sentis fatigués un peu.
Les deux équipes étaient un peu fatiguées quand même.
Mais au moins, il y avait égalité de traitement, les deux avaient joué le jeudi.
Et les Aiglons qui avaient pris 6-2 quand même.
On va revenir juste après.
Super but
Fabrice.
De Burak Yılmaz encore.
Ouais,
contrôle, frappe enchaînée. Après, vétéran turc.
À noter que dès que Nice a relâché un peu la pression, et comme on le voit sur l'action, Lille a pu enchaîner facilement. Et après, Burak Yılmaz, contrôle, frappe enchaînée, magnifique. But.
Toujours invaincu, les Lillois.
Ouais, toujours. Seule équipe de Ligue 1 à être invaincue.
Et c'est là qu'on va en venir. Est-ce que Lille sera vraiment le dauphin du PSG ?
Non. Non, je pense pas parce que ils sont en Ligue des Champions, les matchs vont commencer à s'enchaîner. Donc ça va être très compliqué pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas non plus un effectif pléthorique comme certaines équipes, sachant que je pense quand même Lyon, qui maintenant que le mercato est fini, vont commencer à enchaîner les matchs, qu'ils n'ont pas Ligue des Champions, ils vont pouvoir eux être reposés et tout.
Lyon vont faire deux, à mon avis,
et Lille devrait faire trois, je pense.
Qui vivra verra. Pour l'instant, c'est le PSG qui est en tête avec Lille. Derrière, ça s'est bien serré avec Rennes, Lyon...
Marseille.
Ouais, Marseille. Tout le monde revient dans le paquet, ça donne une petite truc intéressante.
Suspense.
Voilà, en espérant que Nantes joue rapidement. Hein, ce match en retard, il nous coûte cher quand même au classement.
Surtout qu'on reçoit le PSG après.
Ouais.
C'est ça. Samedi prochain.
Samedi à 21h.
C'est le PSG. Alors, pour l'instant, avec 1000 spectateurs, mais peut-être que ça pourrait basculer à zéro selon la décision du gouvernement.
On verra bien.
On va basculer sur la Ligue des Champions, puisque tu commençais à en parler tout à l'heure. Ouais. On va commencer par les clubs français.
Oui, alors le Paris Saint-Germain jouait contre Manchester United pour le compte de la première journée dans le groupe H. Et c'est une défaite, les mauvais démons reviennent. Défaite 2-1 avec des buts de Bruno Fernandes sur pénalty. Un peu particulier parce qu'en fait, il a tiré la première fois le pénalty que Navas a arrêté.
Soi-disant, il a bougé sa ligne.
Et il a.
C'est vrai.
Il passe sur sa ligne. Donc Bruno Fernandes l'a retiré, vu la qualité de ce joueur.
Je rappelle la règle, il a le droit de bouger sur sa ligne, mais il doit avoir un pied qui touche la ligne.
Et ce qui n'était pas le cas.
Donc ça fait 1-0 du coup pour Manchester United. Ensuite, but contre son camp d'Anthony Martial, notre français. Mais bon, ça nous arrangeait bien. Là, on s'est dit, allez, le PSG va peut-être basculer en tête. Rashford, comme en 2019, lorsque le PSG avait été éliminé, qu'il avait inscrit un but sur pénalty au bout du temps additionnel. Et bien là, c'est avec une superbe frappe croisée qui punit le PSG. Ouais.
Rashford, le prince du parc.
Et oui, une fin de série pour le PSG.
Qui n'a pas marqué en Ligue des Champions depuis deux matchs.
Oui, mais il n'avait plus connu la défaite à domicile à ce stade. Depuis 2012.
Et qui se met déjà en difficulté dans son groupe.
Alors, joueurs qui ont fait un plutôt bon match. Bon, Navas a fait un très bon match.
Mais Navas est toujours très bon.
Kurzawa a fait un bon match aussi. Il a fait un bon match.
J'ai trouvé Kurzawa. Je suis d'accord avec Lucien. Kurzawa
a fait un bon match. Un centre, faudra m'appeler.
Mais pour un joueur qui joue pas souvent, qui est souvent décrié et tout, je trouve qu'il a plutôt été là. Il s'est investi dans le match. Il a fait quand même des centres. Après, on peut discuter la qualité. Il a eu des occasions de but aussi. Je crois qu'il touche la barre à un moment même. Sur une action, je crois qu'il touche la barre. Par contre, Neymar et Mbappé. On les attend en Ligue des Champions.
Ils ne sont pas là, collectivement, c'est pas
là. PSG qui se déplacera à Başakşehir, à Istanbul, cette semaine.
Là, ça devrait aller un peu mieux, j'espère.
Je leur souhaite.
Attention,
il faut bien savoir que le match peut être annulé. Parce qu'entre ce qui se passe avec les tensions entre la Turquie et la France, le match peut être annulé.
Sachant que Başakşehir est le club du président Erdogan, donc c'est assez moyen.
On avait dans le groupe E, donc Rennes, qui jouait contre Krasnodar. Donc,
premier match en Ligue des Champions d'histoire des Rennais.
Premier match en Ligue des Champions pour Rennes et pour Krasnodar aussi.
Exactement.
Pour Krasnodar aussi, donc c'était un duel de nouveau dans cette C1.
Krasnodar qui n'avait pas son entraîneur, qui n'avait pas le français dont j'ai oublié le nom, et puis un autre attaquant, ils étaient un peu diminués.
Oui, c'était aussi une équipe diminuée, donc on s'attendait à un premier match, une première victoire pour Rennes, avec un but de Guirassy à la 56e.
Sur pénalty,
exactement. Et Ramirez égalise à la 59e. À la fin du match, Guirassy encore rate une occasion en or. Ça aurait pu vraiment
donner la victoire. Compliqué, mais c'est surtout, je crois que c'est une vingtaine d'occasions pour les Rennais.
Et après, gardien de Krasnodar, Safonov, a fait un très bon match.
Très bon jeune gardien.
Côté Rennais, Doku, son premier match. Très très bon aussi, très percutant dans les duels. Donc voilà.
C'est lui qui fait le centre d'ailleurs sur la dernière occasion pour Guirassy quand il y a eu la remise après de Terrier, je crois.
Juste à noter, l'autre match de ce groupe Chelsea-Séville, 0-0. Mais par contre, Mendy, le gardien de Chelsea, l'ancien gardien de Rennes, a été décisif.
Oui, et Rennes se déplacera justement à Séville cette semaine.
Mardi.
Demain, oui.
Alors,
à 21h.
Après, on avait du coup l'OM. Nos Marseillais qui ont fait leur retour en Ligue des Champions aussi 7 ans après, qui sont allés perdre 1-0.
À l'Olympiakos.
Dans le temps additionnel.
À cause de petits vélos.
90e plus 1. Hassan Maghoub, qui qui marque le but et a noté un très bon Valbuena.
Il a été énorme. À 36 ans, c'est sans doute
beaucoup
le meilleur marseillais sur ce match.
C'est lui qui fait la passe décisive pour le but.
Il a été énorme, Valbuena. Ouais. C'est quelqu'un qui est très important à Olympiakos.
Il était partout
et
en match.
Il a fait le match.
Et alors, quelque chose que je n'ai pas compris, Cuisance, qui n'a pas été titularisé. Ça, je m'interroge.
J'ai un doute sur le choix de Valbuena. De Villas-Boas, pardon.
Pas encore,
qui a eu un choix tactique. Moi, j'aurais mis énormément de milieux pour les contenir.
Exactement. Donc,
parce que ça courait très, très vite sur les ailes entre Valbuena et son compère de l'autre côté. Et il n'a jamais su bloquer les attaques. Et puis, devant, il y a des joueurs qui étaient pas là ou très peu là, quoi.
Payet, Benedetto, Thauvin qui a fait quelques trucs, mais
Thauvin a joué trop classique, toujours son tir enroulé, sans jamais
chercher. Il fait tout le temps la même, Thauvin. C'est vrai qu'en Ligue 1 ça marche, mais en Ligue des Champions.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il cherche jamais à jouer passe courte sur Benedetto, et là, il aurait dû, quoi.
Ouais. Mais sachant que Benedetto avait une grosse occasion en deuxième, début de seconde période. Finalement, il ne l'a pas mise. C'est quasiment la seule occasion du match et c'est le seul souvenir qu'on a de Benedetto sur ce match.
Et même de Marseille, je te dirais.
De Marseille en général, mais c'est. Et ils sont punis en toute fin de match. Enfin, mais après, c'est quand même reste une victoire logique de l'Olympiakos qui a quand même dominé.
Une belle revanche pour Christian Carambeu, directeur sportif de l'Olympiakos, qui avait annoncé la victoire de l'Olympiakos.
Ouais, non, mais bon, les Français de l'Olympiakos, que ce soit El Arabi, que ce soit Mvila.
Un joueur de l'Olympiakos, je ne sais plus lequel, mais sur une photo, on voit qu'à Marseille, lui tire le short et on voit qu'il a un sous-short avec
exactement.
Le
tu l'as vu comme moi.
PSG,
ouais. Oui,
exactement.
J'ai vu cette photo.
On l'a vu cette photo.
J'ai vu cette photo.
À noter dans le groupe B. La défaite surprise du Real contre le Shakhtar Donetsk à domicile, avec donc 3-0. Au bout de 42 minutes de jeu, il y avait 3-0 pour le Shakhtar.
Sachant que le Shakhtar avait ils avaient 11 absents, je crois.
En plus, une équipe qui diminuait. Donc, est-ce que le Real les a pris un peu de danger? Je ne sais pas. Mais donc, après, il y a eu une petite remontada quand même avec Modric à la 54e et Vinicius Junior à la 59e.
Et là, but de Modric.
Et là, toute l'Europe s'affole. L'Europe s'affole. Zidane va
Zidane en danger. Donc ça m'énerve aussi.
Mais je suis d'accord avec toi, Lucien. Voilà, c'est n'importe quoi.
Zidane, un très très bon entraîneur qui l'a déjà prouvé après une défaite.
Bien sûr, il ne faut pas s'emballer après. Voilà.
Mais bon.
Mais moi, je reproche quand même à son meilleur ami Fred Hermel, quand même, le journaliste de RMC, enfin le correspondant à Madrid d'RMC, d'avoir monté le dossier. En ayant la petite idée derrière la tête du résultat dont on parlera tout à l'heure dans le classico,
je pense
du classico,
pour
faire monter la mayonnaise.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Et pour faire réagir aussi les joueurs du Real. Quoi,
Lucien,
parce que...
je pense que Lucien et Charles aussi, on est d'accord avec toi, Jean-Marc. Je pense que ça fait monter la mayonnaise.
Pourquoi pour moi, il y avait ça.
Là, le classico arrivait. Il fallait vraiment que ça...
Il fallait qu'il y ait des trucs. Ouais.
Je pense que c'était un moyen de faire passer le message par...
De toute façon, c'est tout le temps comme ça.
Bien sûr.
Dans le foot, c'est comme ça, ça va vite.
Dernier résultat dans le groupe A, avec le Bayern Munich qui a éclaté l'Atlético 4-0.
Il déroule.
Et nos Français ont été très très bons. Coman, à la 28e, à la 72e, plus une passe décisive pour Goretzka. Qui marque à la grande ligne.
Deux buts pour Coman. Deux buts.
28e et 72e.
Oui,
et Tolisso aussi qui marque son petit but à la 66e. Un très beau but d'ailleurs.
Un petit but.
Extraordinaire jeu de Coman. Alors, il m'a impressionné.
Le Bayern, c'est très impressionnant. Ils sont sur la lignée en fait.
Je vais pas tirer un plan sur la comète, mais pour moi, c'est mes favoris.
Oh ils font partie des grands favoris.
Pour l'instant, ils sont.
On va pas s'enflammer. C'est la première journée.
C'est le Bayern, le Real qui sont en difficulté. Tu vois, certains clubs européens comme la Juve, qui sont en difficulté en championnat. Oh, après, on est qu'au début.
Oui.
Mais le Bayern, quand tu vois ce qu'il
prouve. Je suis d'accord avec toi. Parce que
ce qu'il prouve, c'est impressionnant.
C'est vrai que le Barça est un peu diminué, un peu. Ils sont jeunes, l'effectif du Barça commence à être jeune.
On reverra,
La Juve, un peu, on verra.
Mais pour moi, ils sont bien placés. Juste, on a oublié de dire que Marseille se déplace, recevra
Manchester City.
Voilà,
Manchester City. Et pour moi, ils sont prenables. Parce que City, c'est depuis le début de la saison, c'est très
bien.
Très moyen.
C'est quand même City. En Ligue des Champions.
C'est un coup bien.
Tu as raison.
On en reparlera lundi prochain.
Le seul problème, c'est que Marseille jouera à huis clos.
Exactement.
Ouais. On va vite parler finir de la Ligue Europa. Il y avait nos deux clubs français, Lille et Nice, qui jouaient.
La bonne nouvelle, c'est Lille qui remporte son premier match face au Sparta Prague. 4 buts à 1 avec un triplé de Yazdici, ouais. Le Turc, et donc un très beau match, très bon début de Ligue Europa pour les Lillois, donc qui peuvent peut-être aller loin.
Et qui sauve l'honneur des Français, oui, parce qu'en face, cette semaine européenne.
De l'autre côté, bah, c'est la seule victoire en
championnat. Voilà, c'est la seule victoire et c'est très beau. Ils prouvent qu'ils sont là en début de championnat de France et ils sont à leur place.
Ouais. Lille qui jouera, c'est le Celtic, je crois.
C'est oui, possible, ouais, c'est Celtic.
Et tu vois, Fabrice, on parlait la semaine dernière, tu disais pourquoi Galtier ne titularise pas Ikoné. Là, il ne l'a encore pas titularisé, il le fait rentrer en cours de jeu et Ikoné marque.
Ouais.
Donc, ouais. Du coup, après, à voir, est-ce qu'il faut le titulariser.
Et Ikoné titulaire.
Est-ce qu'il faut le laisser en super sub
Bah, moi, je trouve qu'ils ont un bon réservoir de joueurs.
Ouais. Oui, oui.
Galtier sait faire tourner et ça devrait
Alors,
être intéressant.
Est-ce que Ikoné va supporter longtemps d'être le petit joker des 10 dernières minutes.
Ouais, mais
quand tu gagnes, ça marche.
Mais d'ailleurs, bah oui. Ikoné titulaire face à Nice ce week-end, et ben ils n'ont pas gagné Lille. Je dis ça, je dis rien.
Saint-Etienne
avait fait ça, vous n'étiez pas né, mais avec Paganelli à l'époque. Il faisait rentrer dans les 10 dernières minutes, il mettait un but ou deux buts. Ou à l'époque de Yannick Stoupira à Toulouse, où on faisait rentrer 5 minutes, 10 minutes. Et
Lille, ils mettent fin à une série de 17 matchs en victoire en Coupe d'Europe.
Donc ça, c'est bon pour les Lillois. Et de l'autre côté, de l'autre match, c'était Nice qui se déplaçait au Bayer Leverkusen. Et ben, on peut dire qu'ils n'ont rien. Ils ont vu passer, défiler les attaques Leverkusen avec une défaite 6-2 pour les Niçois.
C'est dur à vivre. Les aiglons ont perdu leur plume.
Après, avec le Bayer Leverkusen,
c'était compliqué de toute façon.
Nous, on a testé, enfin Nantes en 95, on avait pris 5-1. Donc c'était le même écart de score. Bon, sauf qu'à la différence, on faisait jouer l'entraîneur des gardiens, puisqu'il n'y avait plus que...
En 95
ce pauvre Jean-Louis Garcia. Oui, en 95.
Mais c'est sur des matchs comme ça qu'on voit quand même les écarts entre des équipes top tableau.
Bah après, Leverkusen, c'est limite niveau Ligue des Champions aussi, quand même.
Oui, c'est ça, c'est une vraie équipe, mais bon,
c'est un des favoris.
C'est aussi une équipe quand même qui joue souvent le haut tableau, et on voit la différence de niveau. Il y a juste Gouiri qui a été bon.
Ouais, Gouiri et Claude Maurice qui marque en fin de
match. Allez, pour finir avec la page foot, on va parler un petit peu de foot féminin. Puisque la France affrontait la Macédoine du Nord. La France qui l'a emporté 11-0 avec un quadruplé
d'Eugénie
Lassommer, la copine de classe à Maëlan. Du coup, elle était très contente.
La mayonnaise a bien pris.
Ouais, non, c'était moi, j'ai raté les 5 premières minutes et franchement, il y avait déjà 2 buts, donc j'ai peu halluciné.
Fallait vraiment être devant le poste parce que le premier but a lieu au bout de 11 secondes.
10 secondes. 10 secondes. Oui, d'ailleurs, c'est le but le plus rapide pour l'équipe de France féminine dans l'histoire.
C'est la Macédoine.
Oui,
après, du Nord, attention.
Il faut savoir les gagner.
Et marquer 11
buts. Non, la deuxième Macédoine, c'est la partie qui est en Grèce. C'est la partie qui est en Grèce, donc le Nord, c'est ce qu'on appelait avant la Macédoine tout court, maintenant c'est pour...
Il manque des petits pois, il manque dans une des Macédoines...
C'est ça, il doit manquer de l'huile d'olive.
C'était un match de préparation à l'Euro 2000.
Non, c'est une qualification, c'était un match de qualif.
De qualif, ok.
Mardi, ça sera l'Autriche.
Exact, ouais.
Et je voulais finir avec Eugénie Lossommer, elle en est à 86 buts. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'en mettre 100?
Oui, elle restera encore là, encore quelques années.
Surtout que l'équipe de France...
Maëlan, quel âge elle a,
Attends, elle doit avoir
33,
je crois.
32-33.
Je dirais 32-33, moi.
Moi, je pense qu'on va les attendre pour une bonne raison, c'est que dans le foot féminin, il y a des gros écarts de niveau entre les sélections.
Les grosses sélections et les petites.
Ce qui fait qu'il y a des scores très élevés, donc elle peut facilement marquer comme ça des triplés, des quadruplés dans un match.
Un peu comme Messi avec l'Argentine.
Donc, je pense qu'elle va y arriver.
Alors, au classement du groupe, elles sont derrière l'Autriche. Donc, le match contre l'Autriche mardi va être intéressant.
Fou masculin. Même si on a des gros écarts de championnat, c'est rare qu'on voit des scores comme ça, quoi.
Bah, sauf si t'affrontes Saint-Marin, Gibraltar ou Liechtenstein.
Encore Saint-Marin, Liechtenstein, ils jouent. On a quand même pas des.
Ça s'est amélioré.
Ça s'est amélioré.
C'est plus l'époque 82 où on mettait 7-0 à Chypre.
Mais ce qui est bien avec l'équipe de France de foot féminine, c'est que peu importe l'adversaire, elle joue à fond.
Ah oui, c'est clair.
C'est vraiment très bien joué.
À bon entendeur.
Et c'est là où on va revenir.
Il y a peut-être un peu moins de contestation.
Le super match d'Amsterdam qui gagne 13-0. C'est le record absolu, je crois, en championnat.
Aux Pays-Bas.
Contre
Venlo, exactement.
Avec un quintuplé de Traoré. Trois passes décisives.
Donc je vais juste rappeler au programme, donc dimanche, samedi. Normalement, le FC Nantes reçoit le PSG à la Beaujoire à 21h. Et surtout, dimanche, ce sera le retour du foot professionnel à Marcel Saupin. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir, puisque le FC Nantes féminin affrontera Saint-Malo à 15h à Saupin. Si vous pouvez, allez-y, ça va être magnifique. Et maintenant, on bascule avec le score en stock.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans le score en stock, on va attaquer avec le basket, puisque pour une fois, les garçons et les filles ont pu jouer. Et malheureusement, pour l'équipe d'Aurélie Bonan, une défaite à la Montpellier, 62-60. C'est dommage, elles avaient bien marché dans le premier et le deuxième. À la mi-temps, elles menaient de 2 points. Et puis, elles se sont un peu ratées, 13-9 dans le troisième tiers et un quatrième tiers, 17-17. Nantes a vraiment bien joué, mais perd de 2 points contre une grosse équipe. Moi, je suis confiant, ça va remonter, ça commence à être très très bon pour les Nantais, ça va aller mieux. Et on le saura samedi, elles joueront à Charnay. Chez les garçons, ils ont enfin pu jouer en championnat. C'était le premier match de Pro B pour le Nantes Basket Hermine, qui l'a emporté 83-78 à Fos-sur-Mer. À la mi-temps, ils étaient menés de 15 points, 38-23. Et Nantes fait un super retour dans le dernier quart-temps. Ils font un 16-3 et l'emportent grâce à une super fin de match de Thibaut Dessaignet qui rentre 2-3 points et 4 lancers francs. Je suis très content pour eux. Nantes qui se déplacera, je ne l'ai plus...
Déplacera, enfin, à domicile contre Saint-Chamond.
Oui, à domicile contre Saint-Chamond, pardon. Ce week-end, merci. Après le basket, le volley. Le volley, c'était nos volleyeuses nantaises, les passionnantes qui se gèrent très très bien. Elles sont en tête du championnat. Elles ont été gagnées à Chamalières 3-7-1.
Mais je crois qu'elles restent toujours sans défaite. Enfin,
elles sont invaincues.
4 matchs, 4 victoires.
Exactement.
Beau palmarès.
Une victoire, donc premier set perdu, 25-22, ce qui a mis en colère Cyril Hong, qui ne se trouvait pas concerné. Derrière, elles se sont énervées avec Carly Steiner. Et 25-15, 25-19, 25-16, ça a été très très vite derrière.
La correction.
Nantes qui accueillera du coup samedi un superbe match à voir, c'est contre le Pays d'Aix, Aix-Venelle. Aix-Venelle, ils ont gagné la Coupe de France, c'était il y a un mois. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est à Mangin samedi à 20h. Chez les garçons, moi j'y étais cette semaine, les Nantais qui galèrent... avaient perdu contre Paris 3-7-1 mardi. On se rappelle qu'on les avait vus perdre la semaine dernière. Qu'entre-temps, ils avaient perdu à Toulouse. Ils étaient rendus à 4 défaites. Et enfin, un match. Mais alors...
C'était compliqué, hein.
Terrible, extrêmement compliqué. Premier set perdu 25-23. Deuxième set perdu 28-26. Et le troisième set, ils se sont battus pour l'arracher 27-25. Ils vont chercher le 25-21 dans le quatrième set et l'emportent au tie-break 15-11. Un sacré match, mais on va écouter Steve Perronnet, le nouveau libéro de Nantes, qui nous en parle. Avec Steve Perronnet, après cette victoire en 5-7, 3-7-2, un combat acharné, ton analyse du match ?
L'analyse du match, elle est que les deux premiers sets, on les perd. Et franchement, on fait une belle partie. On rate trop de petites occasions qu'on avait l'habitude de faire, donc on le paye cash. Je vais retenir l'énorme réaction de l'équipe qui, après 2-0, après 4 défaites, c'était compliqué. Surtout face à une équipe comme Chaumont qui a énormément de bancs, qui est une grosse équipe du championnat. On a réussi à relever la tête et à leur répondre surtout. Et en plus de ça, on va chercher la victoire qui va faire du bien à tout le monde, que ce soit pour nous, les dirigeants, les supporters, pour tout le monde.
Un vrai combat acharné avec chaque point qui a été extrêmement dur à gagner. Mais vous n'avez jamais rien lâché.
Oui, tout à l'heure on le sait, hein, c'est un championnat très compliqué, avec que des équipes, tout le monde peut battre tout le monde, donc voilà, c'est les points, il faut rien lâcher, comme vous dites. Et je vais retenir vraiment ce soir, je vous dis, la grosse réaction de l'équipe, parce qu'à 2-0, il y a plus d'une équipe qui aurait pu sombrer, parce qu'on entend depuis le début de l'année qu'on est un peu fragile mentalement, donc on voit que de mener 2-0 contre une équipe comme Chaumont, après 4 défaites, je peux vous dire qu'il faut être fort mentalement pour retourner le match.
Prochain combat ici à Duguay, ce sera Cannes en championnat, vendredi prochain.
Oui, ce sera Cannes, une grosse équipe du championnat, qui ont eu leur première défaite ce week-end, donc on voit qu'ils sont pas invincibles, hein, surtout chez eux, contre Tourcoing. Donc c'est une grosse équipe du championnat, on le sait, voilà. On va les jouer en Coupe d'Europe aussi juste après. Donc, c'est bien. Nous, on est en train de monter en puissance aussi parce qu'on voit que les matchs sont beaucoup plus. Il y a plus de contenants dans tout ce qu'on fait. Il y a encore des erreurs, il y a encore des trucs qu'on doit gommer, mais on est sur la bonne voie, donc il faut continuer.
Merci Steve.
Voilà, Steve qui avait beaucoup de choses à dire parce qu'il était. Il y avait vraiment une frustration chez les Nantais de ne pas arriver à trouver. Donc, les Nantais qui vont jouer, donc, comme il disait, Cannes en championnat le 30. Après, ils se déplaceront à Cannes dans la semaine pour la Coupe CEV. Et le 11, ils recevront Cannes pour le match retour de Coupe CEV. Donc là, ils vont les connaître par cœur, Cannes. Ah. Allez, un petit mot de hand maintenant pour dire que malheureusement, Maëlan, on n'ira pas voir Léa Linière de retour mercredi contre Mérignac, puisqu'il vient d'être reporté le match pour 7 cas de Covid pour les Nantaises. Ouais. Tout comme le match que tu voulais aller voir contre Bourg-de-Béage, qui a été reporté aussi.
Mais oui, c'est un peu l'hécatombe, là. On ne sait pas trop.
On ne sait pas où on va avec certains clubs.
Je pense qu'ils ont, du coup, ils sont fermés.
Ils sont en septaine, comme on dit. Ouais. Ils sont tous à l'isolement, donc c'est vraiment compliqué. C'est dommage parce que je voulais en parler la semaine dernière. En fait, moi, je trouve qu'elles font un bon début de championnat, sauf que pas de bol, elles sont tapées Metz. Là, le vrai match qu'elles ont raté, c'est Metz. Mais Brest, la semaine dernière, elles font un super match. Ouais. Et ça se joue dans les 30 dernières secondes. Donc, franchement, c'était pas mal. Elles ne méritent pas de perdre, clairement pas.
C'est leur match, quoi.
J'ai regardé 36 fois ce match. Elles ne méritaient pas de le perdre. Donc, on espère les retrouver bien vite. J'ai oublié le nom des Roumaines qu'elles affronteront en Coupe d'Europe. Mais on vous redonnera ça la semaine prochaine. Chez les garçons, je remets les faits. Donc, on n'a pas vu de match la semaine dernière contre Tremblay. Il a été reporté. Voilà. Ils n'ont pas été joués en Ukraine contre le Motor Zaporozhye. Match reporté
aussi.
Et là, ils avaient enfin, au bout d'une semaine, un match. Ils se déplaçaient à Limoges, la grosse surprise du championnat.
Contre le promu qui fait un excellent début de saison. Et les Nantais se font battre sur le fil en toute fin de match. Ouais. À noter, pendant le match, des gardiens pas au niveau. Pourtant, on a deux gardiens de
seulement stature internationale. Seulement 5 arrêts pour les deux gardiens réunis.
Ouais. 1 sur 14 pour Dumoulin, 4 sur 19 pour Linsen. C'est très mauvais match des gardiens.
Le score, c'était 32-31.
32-31, exactement.
Les Limoges, okay. Côté Limoges,
Limougeau. Oui.
Un très bon gardien, par contre, Idrissi qui a été décisif très bon dans les moments chauds, il fait 13 arrêts.
Dragan Gajic, encore un super match. Voilà, Gajic, 8 sur 13.
Je le dis toutes les semaines, mais voilà. Encore...
Le fou de Lucien.
Non, 8 sur 9 même.
8 sur 9, j'ai mal écrit.
Mais à noter, moi, celui qui a fait le plus gros match côté Limougeois,
Limoges.
Tu me le dis et je le redis. Mike Brasler, qui était en retour de blessure et qui signe un 9 sur 11, dont le dernier but.
C'est lui qui donne la victoire, à Limoges. Et puis, il y avait aussi notre ancien joueur, Julien Emonet, qui fait un 2 sur 3, plutôt pas mal, qui s'intègre bien dans cette équipe.
Et côté Nantais, on avait quand même le retour du demi-centre Ovnisek, qui a été bon. Il fait 5 sur 6 au tir.
Et Emric Mine, mais par contre, manquait beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, cette fois, c'est Thibaut Briet qui manquait. Donc le problème, c'est que les joueurs qui étaient appelés à remplacer commencent à se blesser aussi.
Rivera, Rivera qui n'est pas là, donc c'est compliqué.
C'est l'équipe de côté de H.
Et Limoges qui passe deuxième, 9 points avec 6 journées de jouer.
Alors, c'est ce que je voulais dire. Au classement, le PSG, c'est 10 points, mais 5 matchs. Limoges, c'est 9 points, mais 6 matchs. Et le H est 3e avec 7 points, mais seulement 5 matchs.
Mais c'est vrai que c'est un peu avec le Covid.
Il va falloir gagner face à Tremblay.
Limoges, c'est une belle prestation.
Par contre, à noter, comme disait Steve Perronnet là, dans leur championnat, que c'était très homogène et que tout le monde pouvait battre tout le monde, c'est exactement pareil en Lidl Star League. Chaque équipe peut battre n'importe qui.
La seule différence, c'est que Nantes a vraiment beaucoup de remplaçants, des cadres, etc.
Lidl Star League, c'est
si les cadres étaient là, je pense qu'on gagnerait.
Ouais, mais c'est quand même le meilleur championnat du monde.
Ça reste très homogène entre les équipes.
Handball, c'est le meilleur championnat.
On va dire ça aux Allemands, ils seront contents.
En tout cas, maintenant.
En même temps, on a battu Kiel en début de Ligue des Champions.
Le plus homogène, disons.
Et d'ailleurs, pour la Ligue des Champions, jeudi, Nantes reçoit Zagreb. Je vous donne pas le nom en entier parce qu'il est hyper complexe. Mais normalement, avec une jauge à 1000. Donc, on verra. Mais là, ils doivent le gagner. C'est vraiment important qu'ils le gagnent.
Ça va être compliqué encore.
Pas comme d'habitude.
Ouais.
Et puis dimanche, ils joueront face à Créteil. Donc là, par contre, il faudra aussi battre Créteil.
Là, il faut gagner.
Les Tremblay, Créteil, ici, il faut,
ah oui,
les gagner.
C'est des victoires essentielles. Ce n'est pas des gros, donc...
Dernier point sur le score en stock avec les pauvres Corsaires et leurs 14 cas de Covid. Donc tu vois, le double, on va dans les 14, il y a aussi le manager, il y a le commercial. Mais du coup, les hommes de Martin Lacroix qui n'ont pas pu jouer en Coupe de France mardi contre Angers, ils n'ont pas pu se déplacer à Clermont samedi. Et normalement, si tout va bien, samedi, c'est l'Halloween Game. Le match contre Halloween, pour Halloween,
contre Halloween. Contre,
on est contre.
Mais contre Épinal, pardon. Contre Épinal pour le match d'Halloween, ça sera un beau spectacle. Bon, ça risque d'être limité encore une fois un petit peu en spectateur, mais n'hésitez pas si vous avez une place. Ça sera très sympa, il y a toute une animation. Oui, d'ailleurs, moi j'y serai.
Martin le dirait, tabernacle.
C'est ça.
Tabernacle, qu'est-ce qui m'arrive?
Martin qui était le seul à ne pas être touché. Donc, alors, il y a une certaine.
Ouais.
Une puissance divine. Une puissance divine, voilà, c'est ça. Allez, c'est terminé pour score en stock. On va basculer sur Nitro avec Hamilton.
And Fernando, is there any damage? Is there any possible damage?
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Alors Fabrice, on va commencer avec le Grand Prix d'Algarve à Portimao et cette magnifique 92e victoire d'Hamilton qui est maintenant le seul recordman du monde de victoire en Grand Prix.
Alors, voilà, exactement, 90e victoire, il n'y a pas eu photo. Il a fait la course en tête devant son coéquipier Bottas. Mais Hamilton, je vais vous en parler rapidement.
Vas-y.
Qui est vraiment Hamilton? Il commence en... Déjà, il est 7 janvier comme moi.
Ah, bon ben voilà.
Donc, c'est un Capricorne, donc il est né en 85. Il commence en 2007 chez McLaren, qui est... À l'époque, c'est Niki Lauda. Et là, la première année, première course, podium, deuxième course, podium, troisième course, podium, quatrième course, podium. Et la quatrième course, il est déjà en tête du championnat du monde sans avoir gagné un Grand Prix. Cinquième course, podium. Sixième course, il gagne son premier Grand Prix au Canada. Là, on se dit, ce mec-là...
C'est un bon.
Et là, il va exploser tous les records. Il est recordman de donc 262 Grands Prix. 97 pole positions, le record. 61 podiums, 161 podiums, excusez-moi, le record. 52e tour, c'est pas le record, mais c'est quand même pas mal.
Et là, au Grand Prix du Portugal, 92e, c'est le record.
92e, évidemment, le record. Oui. Donc là, il peut absolument. Quand il est né, c'était Prost qui était champion du monde cette année-là. Et là, c'est... d'ici l'année prochaine, 14e saison, il peut battre le record de Vettel et de Prost cumulé. C'est impressionnant au niveau Grand Prix.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux
dire. Voilà, ça veut dire 105 Grand Prix entre les deux. Encore une saison, et je pense qu'il va la faire la saison.
De toute façon, il va la faire déjà, il va aller au bout de celle-là. Il aura son 7e titre comme Michael Schumacher. Il va faire la saison prochaine pour être le seul à avoir 8 titres de champion du monde.
Sauf surprise, il va
l'avoir. Les records de tous les Grands Prix, machin. Et puis, j'ai une question pour toi. Tout le monde se dit, est-ce que... parce que alors après, c'est souvent c'est un peu people, mais est-ce qu'il ne devrait pas aller chez Ferrari pour gagner avec Ferrari?
Non, je sais pas.
Alors, faut savoir qu'il a commencé chez McLaren en 2007.
Qui était motorisé Mercedes.
Motorisé Mercedes, exactement. C'est ce que là je voulais en arriver. C'est-à-dire que toute sa carrière, il l'a fait avec moteur Mercedes. Et c'est lui qui l'a fait évoluer.
Oui, bien sûr.
Quelque part, quoi, parce que il a toujours voulu boucher sa voiture. Quand il est arrivé chez McLaren en 2007, il n'était pas dans une écurie très privilégiée. Non. C'était pas un moteur exceptionnel. Ils avaient le moteur de l'année d'avant. Et il a gagné. Il finit qu'à un point de Kimi Raikkonen, et ce qui était exceptionnel quand même. C'est-à-dire que si, à l'époque, le point bonus du meilleur tour s'appliquait,
il aurait été
champion du monde cette année-là. Et là, il faut savoir.
Avec des surpris le monde. Hein,
mais, donc voilà. Et donc, je pense que ce sera... il va dépasser Tu penses qu'il va faire encore deux saisons?
Au moins, alors en vrai, ça dépend aussi de
Marseille. Je sais pas, c'est
ça dépend. Il est jeune encore. Hein.
Il est pas si vieux que ça déjà. Il peut faire encore nombreuses années. Hein. Alonso, il revient bien à 41 ans. Donc, mais la problématique, ça sera aussi Mercedes. Mercedes, que vont faire Mercedes à partir
de
2022,
c'est sûr.
Que va faire Mercedes?
Alors, Jean-Marc, il met le point sur l'estomac, là, moins le point sur le cœur.
Est-ce
qu'il va aller
question.
Chez Ferrari?
Je sais.
Je sais pas. Ferrari, c'est quand même en dessous en ce moment.
Oui.
Mais non,
après,
je sais pas.
Faudra voir en 2022. Mais après, Ferrari, ils ont Charles Leclerc. Eux, lui, il partira pas de Ferrari.
Non.
C'est leur projet d'avenir, Charles Leclerc.
Ils commencent à faire de plus en plus des bonnes prestations.
Ils ont recruté,
en plus, donc,
ils ont recruté Carlos Sainz hein, quand même pour à partir de l'année prochaine.
Voilà.
Donc je le vois pas. Ils vont pas virer Sainz au bout d'une après une saison pour prendre Hamilton.
Sachant que Mick Schumacher sera dans l'écurie réserve.
Il va remplacer Grosjean, je pense.
Chez Haas.
Il va remplacer Grosjean.
Oui, et Mazepin qui remplace Magnussen. Ouais, tout à fait,
voilà. On est d'accord.
Donc, bah voilà, il y aura plein de choses. Ça va être intéressant.
Par contre, moi, j'ai une petite question. Le fait qu'Hamilton gagne tout le temps, en fait, est-ce que ça, du coup, ça enlève pas un peu de...
Si.
Je
suis d'accord avec toi,
mais c'est un peu sans partage, quoi.
C'est très bien qu'il va gagner, parce que déjà, Mercedes a su développer la voiture. Oui. Que les autres équipes n'ont pas su faire.
Ils
ont la meilleure voiture,
le meilleur pilote.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient soit qu'ils changent d'écurie, soit qu'ils courent avec un sabot.
Voilà. Mais je pense que certains. Le truc, c'est qu'au tennis, on a
avec
par exemple, on a Federer, Nadal, Djokovic.
Bien sûr.
Là, il y a Hamilton.
En plus, je pense que certains vont se servir du fait qu'il a la meilleure voiture, que c'est plus facile pour lui de gagner, pour dire ouais, mais c'est pas le meilleur de tous les temps et tout.
Oui, mais
justement.
Alors que. Potentiellement, ça peut l'être.
En termes de talent pur.
Quand il a commencé, il n'était pas dans la meilleure écurie.
Mais oui.
Il était loin d'avoir la meilleure écurie.
Mais les gens ne vont pas se souvenir de ça. Ils vont se souvenir de Mercedes avec là où il gagne tout.
Et en termes de talent pur, meilleur ou pas que Schumi?
Ah, c'est difficile à dire.
Alors,
c'est pas la même génération.
Alors là, moi qui suis un fan de Schumacher, mon pilote idéal, moi, c'est Senna. C'était Senna parce qu'il attaquait tout le temps. Il attaquait. Même si je suis français, je vais adorer Prost, évidemment. Prost, c'était mon truc. Mais voilà, Senna, c'était un mec qui attaquait, qui prenait des risques. Voilà, il en a pris un trop un jour, c'est sur une déférence mécanique. Mais je pense que c'est Schumacher le meilleur pilote du monde pour l'instant.
Je ne sais pas, parce qu'en fait,
Hamilton,
Schumacher,
il n'hésite
pas
voitures.
À couper la route quand quelqu'un a essayé de le dépasser. Hein. Il a été beaucoup plus sauvage que... Je trouve Hamilton beaucoup plus respectueux vis-à-vis de ses adversaires que l'était Schumacher.
Ah oui, par contre, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi, Jean-Marc. Là, je suis d'accord avec toi. Hamilton, il a toujours respecté ses adversaires. À l'époque, ils sont croisés très peu de fois, Schumi et certains pilotes. Schumi, un peu comme Senna et Prost à l'époque. Comme Senna, Prost et Piquet.
Mais ce qu'on appelle un peu de personnalité, Prost, du coup, un peu de caractère.
Les mecs, ils avaient du caractère, ils se laissaient pas faire.
Et c'est vrai qu'Hamilton.
Du coup, est-ce que Hamilton n'en fait pas un peu de caractère pour être une personnalité qui se dit ouais, Hamilton, il a cette personnalité. Et on sait que c'est
plus sympa.
Ouais.
Coup, allez, on va arrêter là. De toute façon, on en reparlera.
Ouais.
Je voulais juste redonner le classement. Donc, c'est Hamilton qui l'a emporté devant Bottas, Verstappen. Quatrième, Leclerc. Gasly est cinquième.
Gasly, cinquième. C'est une belle.
Ocon, huitième. Et Grosjean.
Deux Français dans les 10 premiers.
17ème, Grosjean, et qui arrête d'ailleurs.
Oui,
la saison prochaine.
Oui,
donc, on en parle. C'est Mick Schumacher qui va le remplacer d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Donc, au classement général, c'est évidemment Hamilton devant Bottas, Verstappen. Et Grand Prix des. Le week-end prochain, ça sera à Imola. On n'y était pas allé depuis 2004. Donc, au fait, aucun pilote ne connaît ce circuit. Ça sera le Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Comme à Portimao aujourd'hui.
Exactement. On va vite parler du MotoGP, du Grand Prix de Teruel en Aragon. Avec...
La grosse déception encore. Quartararo, qui part en deuxième ligne, il a raté son Grand Prix encore ça se complique pour lui.
Il est parti sixième
il a encore dit que c'était son pneu avant qui l'avait gêné, qu'il n'arrivait pas vraiment à avoir du
zèle sur ce pneu avant. Mais justement,
il ne cherche pas toutes les excuses puisque c'est Morbidelli, son coéquipier, qui l'a emporté avec la même moto.
Non, alors la seule différence, ils n'ont pas la même moto. Morbidelli a la moto l'année dernière, alors que Quartararo a celle de cette année.
Ils n'ont pas les mêmes pneus.
Ils n'ont pas les mêmes pneus.
Et justement, en plus, le fait qu'ils soient partis de la deuxième ligne, lui, le problème, c'est que sa moto, elle n'aime pas rouler en peloton déjà. Donc, déjà, ça lui a fait. Voilà, une...
Ouais, mais si sa moto est difficile.
Oui.
Bon, du coup, pour dire, c'est Morbidelli qui l'emporte devant Rins
encore.
Et Mir, les deux Suzuki.
Les Suzuki sont dans la place.
Fait une belle paire. Il finit cinquième.
Il vise le podium.
Du coup, au classement général, c'est Mir qui est premier avec 137 points de Fabio Quartararo.
Il y a 14 points d'écart.
124 points. Troisième, c'est Maverick Vinales qu'on n'a pas trop vu. Prochain Grand Prix, ça sera à Valence.
Sachant qu'à Valence, Quartararo est rapide, il va vite. Donc en soi, il peut se refaire la cerise là, à Valence.
Et en plus, on prévoit du beau temps.
Oui. Allez, sachant il est moins de quart. On passe à Chasse-Patate rapidement, les gars.
Chasse-Patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et on attaque d'abord avec le Giro, avec un final de folie. Il y avait 84 centièmes entre Tao Gegenhardt, entre Jane Hindley premier et Tao Gegenhardt. Donc on a fini par un contre-la-montre que Ghana a emporté sa troisième victoire devant Victor Kampenaerts.
Quatrième victoire cette année.
Quatrième sur le Giro. Quatrième victoire devant Kampenaerts et Ron Dennis. Et au final, c'est Tao Gegenhardt qui l'emporte pour 38 secondes.
Bah, c'est le meilleur rouleur. Ouais. Enfin, le meilleur rouleur des deux, finalement, a remporté. Hein. Ils étaient égalité. C'était quand même assez inédit, hein, ce fait qu'ils soient égalité avant la dernière étape.
Il est attendu. Hein.
Et après, là, on l'a vu sur le dernier contre-la-montre et tout, que Gegenhardt était un meilleur rouleur qu'il laisse. Ça s'est confirmé. Pas de surprise en soi. Hein. Je pense qu'il
Laisse un grimpeur, tout ça.
Comme Gegenhardt. Ouais. Mais malheureusement, il roule moins bien que Gegenhardt. Ouais. Gegenhardt qui est chez Ineos. Là où il y a tous les rouleurs comme Denis Ghana, forcément, ils savent rouler.
Il est l'Australien qui finit devant son
coéquipier Wilco Kelderman,
qui était le favori.
Favori quand il prend le maillot rose au Stelvio et que finalement à ses strières il craque complètement et il laisse complètement filer, alors que limite c'était pour lui en soi. Hein. Maintenant. Est-ce qu'on pourra pas du coup regretter aussi que Jane Lay, finalement, sur l'étape du Stelvio,
il aurait dû attaquer.
Est-ce qu'on peut le reprocher? Mais malheureusement, la consigne d'équipe, c'était n'attaque pas parce qu'il y a Kelderman derrière.
Voilà, s'il faut le reprocher à quelqu'un, c'est au patron de la Sunweb qui lui a dit de gérer comme ça.
Bah oui, c'est ça. Mais c'était un beau final entre deux jeunes coureurs de 25 et 24 ans.
Ce que j'ai aimé, c'est que Tao, à l'arrivée, bon, il sait particulièrement presque qu'il a gagné. Mais il attend au dernier moment.
Bah forcément.
Ah oui.
Tant que le mec n'est pas arrivé.
Il attend.
T'es pas confirmé.
On sait jamais.
Pourtant, la Philippe.
Oui, mais
par contre, il donne une nouvelle ampleur à sa carrière, hein, parce qu'il avait juste gagné avant de gagner le Giro, là, deux étapes du Tour des Alpes en 2019. C'était tout.
Ça son Tour des Alpes. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça donne avec l'abandon de Geraint Thomas assez rapidement dans le Tour, dans le Giro, ça a quand même permis à Tao Gegenhardt finalement de se montrer et de remporter ce Giro.
Voilà. Du coup, c'est un peu comme au Tour de France où tout change au dernier moment sur
la dernière étape comme au contre-la-montre.
Ineos qui fait qui réussit le meilleur grand tour de son histoire alors qu'ils étaient plutôt avec Geraint Thomas et tout compliqué.
Et les Jumbo Vista
on va en parler tout de suite puisqu'il c'est comme au rugby, il y a des semaines de doublons. C'était le début de la Vuelta semaine, ça a commencé mardi.
J'ai deux trois anecdotes sur le Giro
rapide parce qu'on a très peu de temps.
C'est que la Ineos gagne encore un grand tour, ce qui fait que depuis 2014, ils gagnent au moins un grand tour chaque année et que pour les Italiens, Giro, ils sont à la 7e place, c'est la pire place dans l'histoire du Giro pour un coureur italien, 7e avec Nibali.
Demar premier.
On a oublié de zapper.
Et Arnaud Demar qui gagne
avec 4 victoires, c'est un record, ça n'avait pas été fait depuis Bernard Hinault.
Troisième français.
Donc, du coup, on se bascule sur la Vuelta. Roglic avait pris la tête dès mardi.
Dès la première étape.
Ça a commencé mardi. On se disait, la Jumbo, ils sont là. Et puis dimanche, patatras, victoire de Yone Izaguirre grâce à son frère Gorka pour l'Astana, puisque lui cherchait le classement général. Et du coup, Roglic se fait lâcher dans la dernière montée. Du coup, c'est Ineos qui est en tête, c'est Richard Carapaz.
Devant Hugh Carty, l'anglais de la IF Drapac. Education First.
Ouais. Et puis troisième, c'est Dan Martin, l'Irlandais sur Israel Pro Cycling.
Et Roglic qui est 4, du coup.
Et oui, Roglic a craqué sur la dernière étape.
À 30 secondes.
Alors, moi, je voulais juste une petite question sur les Français. Qui c'est que vous voyez entre Guillaume Martin, Bruno Armirail, David Godu, Clément Champoussin, Kenny Ellison, Nance Peters ou Lorenzo Manzin ? Pour faire parler de lui,
moi,
pour gagner une étape.
Guillaume Martin. Guillaume Martin, c'est celui qui fait plus parler de lui sur la première semaine. Deux grosses échappées, il finit deuxième derrière Guillaume Martin. Là, il fait encore une belle étape hier.
Je pense
qu'il est sixième.
Il va être dans une échappée.
Il est offensif. Il est offensif.
Pour l'instant, le meilleur français, c'est David Godu.
Guillaume 16e. Martin, c'est le coureur philosophe là ou non.
Oui, c'est lui.
Qui est à la Cofidis.
C'est lui. Eh bien, très très bien. Donc, on va suivre ça pour le Giro. Ça va être très intéressant. Entre les deux, je voulais juste parler d'un tout petit événement puisqu'il y avait les trois jours de la panne, de Bruges la panne pour être exact. Et la grosse surprise, c'est
Van der Poel
qui chute dans un fossé et puis un grand fossé.
Un beau fossé.
Il était secoué à moins de 10 km de l'arrivée.
C'est dommage pour lui.
Du coup, bah, il laisse la victoire à
Yves Lampaert, le coureur de la De Koninck Quickstep d'ailleurs, hein, qui a prolongé encore d'une année jusqu'en 2020. Mais c'est un très bon coureur belge. Il s'était blessé et tout. Il devait et donc là, c'est bon pour lui, sa première victoire de l'année. Donc.
Et devant deux autres Belges, Tim de Klerk et Tim Merlier.
Tim de Klerk,
les Belges,
le tracteur.
Sont en forme.
Ouais.
Et c'est spécialiste de.
Ouais, temps, ça semble Belgique aussi. Hein.
Pour en finir avec le vélo, je voudrais vous parler des maillots arc-en-ciel dans les sports un peu particuliers.
En cross-country.
Donc, on sait qu'en cross-country, donc à la campagne, Pauline Ferrand-Prévot et puis Jordan Sarrou l'avaient emporté. Voilà. Eh bien, en cross-country, mais en ville, ce qu'ils appellent éliminator, VTT éliminator, c'est la Française, je l'ai noté quelque part, Isor Médéeux, qui a gagné chez les filles, et alors ce qu'on appelle d'un boyau, hein, très très belle performance de la Française, et Titouan Perrin gagné, qui gagne son quatrième titre de champion du monde. Autant vous dire que les Français des maillots arc-en-ciel, ils en ont une collection cette année,
ah
c'est cool.
En vélo, ils sont partout là.
Ah bah là.
On les reconnaît facilement maintenant. Hein.
Oui, ils sont tous en arc-en-ciel dans tous les pelotons.
Magnifique.
Allez, on bascule vite fait sur multizone, il nous reste 5 minutes, et on va parler rugby. Ouais.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence par France-Galles et cette victoire 38-21, 5 essais.
Ouais, France-Galles, ouais, c'est marrant d'ailleurs.
Ouais.
France-Galles. Donc 38-21.
De quoi ils me parlent
là. Ça fait des années que ça commence.
38-21 pour la
et
France.
Et pas Michel Berger non plus.
Il signe une belle performance, hein, parce que
Laurent Blanc.
Début de match difficile, hein, et c'est dès la première minute. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, ça va être une déculottée. Et en fait, pas du tout. Les hommes du capitaine Olivon, ils ont remis la main sur le match. Ils ont inscrit 5 essais à 2 contre des Gallois, bah, sans solution.
Avec
hein.
Antoine Dupont.
Super match de Dupont. 2 essais, Vakatawa et encore
énorme,
percutant.
Énorme.
Ntamack impeccable au pied, 6 sur 6. Donc une très bonne préparation avant la finale du tournoi Destination contre l'Irlande
ce week-end.
Qui a d'ailleurs l'Irlande qui a étrié
gagné.
L'Italie, bon logique, hein, 50-17.
C'est logique.
Mais voilà, c'est de bon augure.
Et donc la petite anecdote sur ce coup-là, c'est que l'équipe de France va venir jouer à Vannes. Au stade de la Rabine, le 15 novembre.
Oui.
C'est sur un petit pari qu'a fait Arnaud Baudouin, le directeur
de Vannes,
en envoyant un SMS Bernard Laporte en disant voilà, si vous voulez faire un match de préparation,
on va bien se marier.
Sur un stade qui peut accueillir 8000 personnes alors qu'on a 5000, mais qui sera presque plein. Bah, venez chez nous.
Ça dépend du Covid.
Évidemment,
hein,
maintenant, on est dans l'expectative.
On ne peut plus
évidemment.
Parier. Et ça sera contre les Fidji.
Contre les Fidji, oui.
On ira
à 15h le 15 novembre.
D'accord. Et ben,
j'espère
c'est bien
que ça
noté.
Va se faire.
Moi aussi, j'espère qu'on pourra avoir du public là-bas. Ça serait chouette.
J'y serai. Si ça se fait,
il n'y a pas de problème. Tu nous feras un petit reportage.
Évidemment.
On parle vite fait de championnat. La défaite de Toulouse à domicile face à Lyon. C'était pas arrivé depuis hyper longtemps.
7-16. Lyon qui bat Toulouse, du coup.
Bon, c'était une défaite en soi assez logique, prévisible, au vu des nombreux absents qui étaient en sélection.
C'est toujours le problème quand il y a des matchs internationaux.
C'est
bon,
le seul
top 14,
sport. On ne comprend pas comment ils peuvent faire des matchs internationaux et en même temps les championnats.
Exactement. C'est ça que ça fausse un peu.
On rappelle qu'il y aura 6 doublons. Donc, en fait, finalement, ça permet à des équipes comme Clermont, qui avait qu'un seul appelé, de mettre plus de 50 points à Pau. Ça change un peu tout.
Oui.
Et du coup, pour l'anecdote, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Tristan Eder, qui normalement joue pour Béziers, l'AS Béziers
en Pro D2,
et qui appartient à Toulouse, et il a été rappelé pour ce match pour jouer avec Toulouse. Donc j'ai jamais vu un joueur jouer la même saison sans qu'il y ait d'histoire de transfert dans deux équipes différentes. Alors, c'est là que c'est pas terrible.
J'ai appris ça ce matin. Quelqu'un m'a client moi qui.
Mais le rugby, c'est pas
qui est incroyable. Pas, ouais, qui est rival, il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, si.
Après, est-ce que c'est pas justement pour redonner un peu des chances à chaque équipe? Je sais pas.
Ouais, enfin, c'est un peu ridicule d'aller chercher aussi, de l'argent tout le temps. Allez, on bascule vite fait avec du tennis. La belle victoire d'Hugo Humbert.
À Anvers,
6-1, 7-6 face à Alex de Minaur qui était devant lui. Du coup, Hugo Humbert prend la 32e place de l'ATP.
Très beau tournoi.
Il est 3e français, c'est sa 2e victoire cette saison.
Deux finales, deux victoires pour lui. Mmh. Quand à chaque
Bravo à lui. Et espère qu'il sera présent à Bercy pour faire de belles choses.
Exactement.
En golf, le Zozo Championship, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est Cantlay qui a gagné devant Ian Rams et Thomas. Voilà.
Tiger Woods qui reprenait d'ailleurs.
Ouais, qui reprenait.
Qui a fini très loin, mais il reprenait.
Cantlay, il nous fait un super truc. Hein, il finit.
Exactement.
À moins 8, c'est pas mal.
Bon, juste un tout petit mot. Les World Series, c'est du baseball. Tampa Bay qui égalise à 2 matchs partout dans, grâce à l'erreur du catcheur des Dodgers, Will Smith. Ouais, c'est pas l'acteur, c'est le joueur. Il a pas autant de talent. On suivra aussi rapidement la NFL avec quelques favoris qui font plaisir. Green Bay qui est à 5 victoires. Les Buccaneers, l'équipe de Brad. C'est pas Brad.
Tom Brady,
voilà, merci. Sa nouvelle équipe qui cartonne. Hein, ils ont été gagnés à Las Vegas hier. Ils sont à 5 victoires à 2. Et puis les Chiefs, le champion en titre, 6 victoires à 1. Ils sont même permis de sortir leur QB Patrick Mahomes pour laisser son remplaçant Chad Henne rentrer et marquer lui-même un touchdown. Donc bravo à eux. Maintenant, on bascule sur le quiz Maëlan.
Money time.
Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz.
Et pour
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Pardon. Et du coup, avant de commencer le quiz, un petit mot. On avait un jeu concours pour faire gagner un ballon du FC Nantes dédicacé par toute l'équipe. Et Maëlan, tu as le vainqueur.
Tout à fait. Suite à un tirage au sort... Le gagnant du ballon du FCN est une gagnante. Et donc, elle s'appelle Alison Calouzi. Donc, bravo à elle. Et le ballon est à récupérer dans les locaux de Prune.
Bravo. Voilà, bravo. Et si on est par là, quand vous venez le chercher, on vous fera une petite photo. Allez, le quiz, Lucien, on attaque.
Alors, le quiz, ça sera un C+, C-. Vous allez vite comprendre le principe. Hein. Allez, première question. La première édition du Tour de France. Facile.
1904.
Ah, c'est 3.
Moins.
1903, bonne réponse. Le nombre de trophées soulevés par Nadal dans sa carrière.
20.
38.
Non. Ah bah non,
138.
Les...
140.
C'est plus, c'est moins.
90.
C'est moins.
50.
77.
C'est alors, plus.
C'est 78.
C'est 82.
C'est plus.
84. 5.
C'est plus.
86.
C'est bon. Ouais. Allez, le score le plus lourd de l'histoire du foot.
13-1.
C'est plus.
16-0.
C'est plus.
25-0.
C'est plus.
30-0.
C'est plus.
50-0.
C'est 0 déjà ou pas?
C'est 0.
60.
C'est plus.
70. 80.
Ouais,
je vous le donne parce que vous ne le trouvez pas. 149-0.
Non,
Le 31 octobre 2002. Mais c'est une équipe en fait qui avait perdu volontairement le match en signe de protestation de l'arbitrage des matchs précédents.
Okay. J'avais vu ça.
Championnat de Madagascar.
Exact.
C'était où?
Alors, championnat de Madagascar.
D'accord.
Alors, le nombre de décibels quand la joueuse de tennis Victoria Azarenka pousse un cri sur le court.
88.
Plus 112.
C'est moins.
108.
C'est moins.
105.
C'est ça. 105. C'est l'équivalent du bruit d'un marteau piqueur ou d'une boîte de nuit. En fait.
Et ça, pendant 2 heures, ça doit être casse-pied.
Allez, le nombre de matchs du FC Nantes en Ligue 1.
1180.
C'est plus.
1317.
C'est plus.
1400,
c'est plus.
1500,
c'est plus.
1600,
c'est plus.
2000,
c'est moins.
1880.
1937 matchs en 53 saisons.
Dans 2-3 saisons, si on descend pas, on verra le 2000e match.
Le tour le plus rapide de l'histoire de la F1 en kilomètre-heure.
Le tour le plus rapide
en kilomètre-heure.
En moyenne
La moyenne de... Voilà, la
53
moyenne.
Secondes.
300...
La moyenne,
317 km/h.
Ah oui, vitesse.
254.
Plus.
254.
Ah non, c'est...
C'est
270.
C'est moins.
60.
Allez, 264. C'est fait par Hamilton le 5 septembre 2020 à Monza.
264, tu as dit ?
Ouais.
Monza, c'est un...
Petit joueur. J'ai le temps d'en faire une petite dernière, peut-être.
Allez.
Le record de vitesse enregistré sur le Tour de France. Dans l'histoire du Tour de France.
109.
C'est ça. 101,5. Allez, je te l'accorde. C'est Nils Polit qui a roulé lors de la descente du col de Vars. Ouais.
Oui, d'accord.
120 km/h.
Azrin qui a failli refaire un
On vous rappelle qu'à Vars, c'est là où il y a la piste de kilomètres lancés. Donc ça peut aider. Enfin, c'était pas sur cette piste-là.
Toute petite dernière, l'étape la plus longue de l'histoire du Tour de France.
312.
C'est 480 km.
Ouais.
Bon, allez, je te la donne, c'est 482, mais pour 2 km près.
Allez, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est le Feel Good.
Ciao, ciao.